VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du vendredi 8 mai 2015. À la une ce soir.
Burundi, les autorités durcissent le ton alors que les leaders de la contestation annoncent une trêve pour demain. Défiant l'opposition et la communauté internationale, Pierre Nkurunziza entre officiellement dans la course pour un troisième mandat.
Nouvel attentat de Boko Haram au Nigeria.
Guinée, la rencontre Condé d'Alain Diallo n'a pas eu lieu.
Crise au Yémen, le chef de la diplomatie américaine en conclave avec les monarchies du Golfe.
Élection en Grande-Bretagne, jubilation chez les conservateurs, désolation et démission en série au Parti travailliste. David Cameron peut maintenant former un gouvernement 100% conservateur.
Commémoration aujourd'hui en Europe et aux États-Unis du 70e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie.
Et la fête en Russie, ce sera demain. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Les autorités burundaises ont donné ce vendredi l'ordre à la police de démanteler l'ensemble des barricades subsistant sur le territoire, rapporte l'AFP citant un haut responsable de la police ayant requis l'anonymat. Auparavant, les meneurs du mouvement de contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont décrété une trêve d'une journée samedi dans les manifestations. Pour rappel, ces protestations ont fait 18 morts depuis le 26 avril. Et sans surprise aujourd'hui, Pierre Nkurunziza a fait officiellement acte de candidature à la présidentielle du 26 juin. Nicolas Pinot.
Oui, le président burundais s'est rendu ce matin à la Commission électorale nationale indépendante. À son arrivée, Pierre Nkurunziza a promis que les manifestations, devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Le chef de l'État burundais a aussi assuré que les troubles ne concernaient que quelques quartiers de Bujumbura, mais que 99% du Burundi était en paix. « Je vous promets que les élections vont bien se dérouler », a-t-il ajouté. Les manifestants morts et les pressions internationales n'ont rien changé à Bujumbura, où la tension s'accroît avec le dépôt de cette candidature. Conformément aux accords d'Arusha, le président burundais a déjà effectué deux mandats et ne peut en effectuer un troisième. « Faux », répondent ses partisans, qui affirment que la constitution burundaise ne tient pas compte du premier mandat au suffrage indirect qui a porté au pouvoir Pierre Nkurunziza en 2005. Ce vendredi, les manifestations se sont poursuivies dans la capitale burundaise.
Et c'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité a entamé des consultations sur la crise au Burundi. Une rencontre qui se tient à huis clos à New York, d'après l'AFP. Pour autant, on ne s'attend pas à une déclaration formelle, puisque la Russie a déjà bloqué de précédentes tentatives du Conseil de prendre position sur la controverse à propos d'un troisième mandat du président sortant Pierre Nkurunziza, arguant que le Conseil ne devait pas s'immiscer dans les affaires constitutionnelles d'un État souverain.
En Guinée, la réunion prévue ce matin entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne, l'ex-premier ministre Sélou d'Alain Diallo, n'a finalement pas eu lieu. L'opposition dénonçant les violences et les exactions exercées par les forces de l'ordre sur leurs militants. Claire Morin-Gibourg a joint Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, membre de l'opposition, pour lui demander quelles étaient les perspectives politiques en Guinée.
C'est bien dommage que pendant 5 ans, nous ayons passé notre temps à discuter de problèmes qui, partout ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où il y a eu une crise post-électorale, au Mali, où il y a la guerre, au Niger, où il y a eu des choses de ce genre, ont été réglés en 8 mois, en 10 mois. Nous avons passé 5 ans pour cela. Il y a donc un problème ici, au niveau de la gestion du processus électoral, qu'il va falloir régler pour permettre à ce gouvernement de consacrer un peu plus de temps au développement économique et social de notre pays. Il ne faut pas oublier que la Guinée est un pays, 5 ans après l'arrivée d'Alpha Condé, où on n'a toujours pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure de base, pas d'assainissement de la ville de Conakry. Donc il y a des tas de choses à faire que ces discussions qui n'en finissent pas et qui sont pourtant consignées dans des lois clairement compréhensible pour tous les Guinéens, à savoir qu'en 2011, on aurait dû terminer avec tout ça.
Est-ce que vous allez appeler à de nouvelles manifestations?
L'opposition se réunira pour discuter de cette question dès demain.
L'ancien Premier ministre et membre de l'opposition guinéenne, Sidia Touré.
12 étudiants ont été blessés grièvement aujourd'hui par un kamikaze qui a ouvert le feu avant de se faire sauter devant un lycée de la ville de Potiskum, dans le nord-est du Nigeria, une région régulièrement visée par Boko Haram. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon un policier et des témoins cités par l'AFP, l'assaillant qui portait une ceinture d'explosifs s'est suicidé après avoir épuisé ses munitions sans faire d'autres victimes. L'attaque a eu lieu devant le College of Administrative and Business Studies de l'État de Yobe. Les élèves attendaient de passer un contrôle de sécurité obligatoire devant la porte de l'école à la suite d'une série d'attentats à Potiskum, certains visant des établissements primaires et secondaires. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la ville a déjà été visée à plusieurs reprises par les islamistes de Boko Haram. En novembre dernier, 58 personnes ont été tuées et 117 blessées par un attentat suicide contre une école secondaire proche du même collège. L'attentat avait été attribué à Boko Haram.
Nouvelle flambée de violence interethnique en République démocratique du Congo. Les Nations Unies indiquent que plusieurs dizaines de personnes ont été tuées fin avril, début mai, dans la province du Katanga. Des miliciens du groupe d'autodéfense Luba, Bantou, ont attaqué des sites spontanés mixtes où vivaient des déplacés pygmées et bantous ayant fui le conflit intercommunautaire, explique le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires. La tension serait toutefois retombée avec le renforcement des forces de sécurité et de la MONUSCO.
Et accusation de viol d'enfants par des soldats français en Centrafrique. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'étonne que la France n'ait ouvert une enquête qu'en juillet 2014. Alors que les faits ont eu lieu entre décembre 2013 et juin 2014. Pour Zaïd Raad Al-Hussein, un membre des forces armées françaises sur place a forcément été informé des faits avant la remise du rapport, voire quand ils se sont produits. Quelqu'un était au courant, il n'a rien dit. Il est impossible de croire que ces soldats aient agi sans que personne d'autre ne soit au courant, a-t-il déclaré.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, le verdict des urnes a fait mentir tous les sondages. Les grands vainqueurs des législatives d'hier sont les conservateurs et les nationalistes écossais. Le Premier ministre David Cameron va former un gouvernement 100% conservateur et Ed Miliband a offert sa démission de la tête du Parti travailliste, un geste posé aussi par d'autres dirigeants suite à cette cuisante défaite. Idriss Fall.
Ed Miliband a dit qu'il avait cru jusqu'au bout à la victoire, mais a annoncé aujourd'hui que le Labour Party a besoin d'un nouveau chef de file. Ed le Rouge, comme on le surnomme, a été confortablement réélu dans son fief de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre, mais des figures importantes de son parti, y compris son directeur de campagne, ont été éliminées. Le choc est d'autant plus dur que les instituts de sondage avaient prédit jusqu'au bout de la nuit des résultats très serrés. Les travaillistes ont perdu 26 sièges et n'ont que 232 au futur Parlement, loin derrière les conservateurs qui remportent 331 sièges, beaucoup plus que la majorité absolue de 326 élus. David Cameron va donc rempiler pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du gouvernement britannique.
Perdants et gagnants aux élections britanniques se sont retrouvés côte à côte ce vendredi pour participer aux cérémonies commémorant la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945.
À Washington, il y a eu également des cérémonies et à Moscou, ce sera demain. 7 morts dans le crash d'un hélicoptère dans le nord du Pakistan, dont les ambassadeurs des Philippines et de la Norvège et les épouses des ambassadeurs de la Malaisie et de l'Indonésie, Nathalie Barge.
Deux pilotes et un membre d'équipage ont également été tués. L'hélicoptère s'est écrasé ce vendredi dans la vallée de Naltar. Les ambassadeurs de la Pologne et des Pays-Bas sont parmi les 10 survivants, selon le porte-parole de l'armée pakistanaise Asim Bajwal. Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de ce crash, disant qu'ils visaient le premier ministre Nawaz Sharif. Cependant, le ministre de la Défense, Kawaz Asif, a affirmé à la télévision d'État qu'il s'agissait d'un accident dû à une faute technique et non pas d'un acte terroriste. Selon la primature, le premier ministre était dans un avion à destination de Gilgit au moment de l'incident, mais il est retourné à Islamabad et a adressé ses condoléances aux proches des victimes. Les ambassadeurs de plus de 30 pays et leurs proches, entre autres dignitaires pakistanais, se sont rendus à Gilgit dans un avion affrété par le ministère des Affaires étrangères. De là, 4 hélicoptères les ont transportés à Naltar en voyage d'excursion de 3 jours.
Des milliers d'Iraniens ont manifesté aujourd'hui contre les raids de l'Arabie Saoudite au Yémen. L'Iran soutient les rebelles houthis chiites, tandis que le royaume saoudien et ses alliés du Golfe sont venus en aide aux sunnites, partisans du président renversé par les houthis. Selon l'ONU, le conflit yéménite a fait plus de 1400 morts et plus de 6000 blessés depuis la mi-mars. Ce vendredi, les frappes de la coalition ont fait au moins 13 morts. Les États-Unis et d'autres puissances ont appelé cette semaine une trêve humanitaire au Yémen.
La justice américaine a ouvert une enquête fédérale sur les pratiques de la police de Baltimore en matière de respect des droits civiques après la mort de Noir, Freddie Gray, dans cette ville portuaire proche de la capitale, Washington DC. Après plusieurs rencontres avec différents secteurs à Baltimore, la toute nouvelle ministre de la Justice, Loretta Lynch, a fait l'annonce ce vendredi, disant qu'il s'agira de déterminer si la police de Baltimore s'est engagée dans une forme ou une pratique en violation de la Constitution.
Et bonne nouvelle pour l'économie américaine, 223 000 emplois ont été créés par le secteur privé le mois dernier, ramenant le taux de chômage à 5,4%, soit une baisse d'un dixième pour cent par rapport au mois précédent et le niveau le plus bas en près de 7 ans. Le marché du travail était particulièrement favorable dans les secteurs des services commerciaux, de la santé et de la construction. Il y a quand même 8,5 millions d'aides Américains sans emploi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Les prix des principales denrées ont continué de baisser en avril, enregistrant un recul de 19% sur un an, indique la FAO. Ce qui devrait notamment stimuler les importations de lait en Afrique, estime l'organisation onusienne dans son rapport semestriel. La production de sucre en hausse constante devrait dépasser les besoins pour la cinquième année consécutive et contribuer à la chute des prix. Sa consommation continue de se développer sur de nouveaux marchés en Afrique et en Asie, souligne la FAO. Les travaux du marché international de Kinshasa ont été lancés cette semaine par le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. La réaction du ministre de l'Industrie Germain Kambinga lors de l'ouverture des travaux.
Nous avons commencé avec le Made in Congo, on doit aller jusqu'au bout. C'est un marché qui va permettre un achalandage optimal des produits sur l'espace de la ville de Kinshasa, qui est le premier grand marché, mais également de l'ensemble du pays. Mais bien plus, puisque nous parlons des marchés internationaux, les produits transformés, vendus sur place, iront également à l'international.
Germain Kambinga, ministre congolais de l'Industrie. Les chefs d'État des pays de la CEMAC, réunis en sommet à Libreville cette semaine, ont décidé d'abandonner le projet de compagnie aérienne régionale, rapporte l'agence de presse africaine. Souhaitant faire renaître la défunte Air Afrique, les administrateurs d'Air CEMAC n'ont pas trouvé de partenaire, les négociations avec Air France n'ayant pas abouti, a dit Pierre Moussa, le président de la commission de la CEMAC.
Voilà pour la Minute Éco avec Nathalie Barge.
L'actualité sportive, Dagasikoura, bonsoir.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
L'Ivoirien François Zaoui n'est plus entraîneur du Kaloum.
Eh bien, il a été viré, hein. C'est la conséquence de l'élimination de l'équipe en Ligue des Champions, l'AS Kaloum donc, qui ne le veut plus comme son sélectionneur, cet ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. L'AS Kaloum parle d'insuffisance de résultats selon nos confrères de Foot Africa qui rapportent l'info. La qualification pour la phase des poules de la Ligue des Champions était la première mission du technicien ivoirien en Guinée. Il est arrivé au mois de février à Conakry en remplacement du français Pascal Janin. L'ancien sélectionneur des éléphants avait vu son équipe tomber sans perdre en huitième de finale face à l'USM Alger. Le week-end dernier.
Quelqu'un qui est très content ce vendredi, Zinedine Zidane. Et pourquoi?
Eh bien, il a eu ses papiers, hein, très fier d'avoir reçu mon diplôme d'entraîneur. Mission accomplie. S'est-il réjoui sur son compte Instagram, accompagné d'une photo tout sourire. Ce diplôme met fin à une polémique, hein, qui lui a valu d'être suspendu 3 mois par la Fédération espagnole de football pour avoir exercé depuis le début de la saison sans avoir complètement validé son diplôme professionnel. C'est ça qu'on appelle travailler sans papier.
On est très préoccupés ici à Washington, Bagassi, les fans de Wizards, je veux dire.
Oui, les matchs en demi-finale du championnat de basketball nord-américain reprendront ce soir et samedi. Le temps pour les Wizards de s'aviser, comme vous dites, ils viennent d'essuyer un coup dur en perdant leur meneur John Wall. Wall est tombé lors d'un match des demi-finales de la conférence Est.
Voilà, Bagassi Koura pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcy, les Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour.
Sans surprise, au Burundi, Pierre Nkurunziza est officiellement candidat à la présidentielle du 26 juin. Le président sortant a déposé sa candidature ce matin, malgré les manifestations qui se déroulent depuis 2 semaines dans le pays. Ce vendredi, au total, on compte déjà 3 candidats pour cette présidentielle tant attendue. Nicolas Pineau a joint le président de la CENI, Pierre Claver Ndaïd Chérié.
Tout normalement parce que cette candidature que nous avons reçue aujourd'hui, mais aussi celle du candidat du parti UPRONA, c'est une procédure normale annoncée depuis quelques jours, puisque la période de dépôt des dossiers de candidature a été ouverte le 30 avril et doit se clôturer le 9 mai, c'est-à-dire demain. Nous attendons déjà une troisième candidature, celle de la coalition COPA, qui est dirigée par l'honorable Moutabazi, le candidat de l'UPRONA, qui est l'ambassadeur Gérard Nouaïo, et le candidat du CNDD qui est venu déposer son dossier, c'est le candidat Pierre Nkurunziza. Donc aujourd'hui, 3 candidatures déjà déposées et demain nous attendons d'autres.
Est-ce que vous êtes confiant concernant l'organisation du scrutin législatif ?
Bien sûr que la CENI est optimiste, bien sûr que la CENI est confiante. Pourquoi nous disons que nous sommes confiantes ? Parce que notre commission électorale travaille en permanence avec les parties prenantes, les partenaires électoraux. Nous les réunissons, nous les informons, nous dialoguons pour que nous puissions dégager l'autoroute qui nous mène vers le rendez-vous du 26 mai 2015. Il y a bien sûr des moments de passion, il y a bien sûr des moments de fièvre électorale, il y a bien sûr des défis politiques qui sont toujours liés à la préparation des élections, parce que vous savez que les élections, c'est un rendez-vous destiné à changer les leaders qui dirigent les institutions du pays. Voilà le sens de toute la fièvre que nous vivons à l'approche des élections électorales de 2015.
Est-ce que vous garantissez la transparence et la crédibilité du scrutin présidentiel du 26 juin prochain ?
En tout cas, au niveau de la CENI du Burundi, nous avons parié sur l'inclusivité, et sur l'inclusivité, je voudrais vous informer que par rapport à 2010, nous avons aujourd'hui 3 coalitions qui entrent dans la compétition. Nous allons travailler pour respecter et cette transparence, mais aussi la crédibilité. Nous avons des observateurs internationaux déjà annoncés, les Nations Unies à travers la MENUB, l'Union européenne, mais nous attendons aussi plusieurs missions d'observation électorale comme celle de la communauté est-africaine. Sûrement que la francophonie va envoyer une mission d'observation électorale et d'autres qu'on nous annonce dans les tout prochains jours.
Déclaration de Pierre Claver Ndaïd Chérié, président de la CENI, joint à Bujumbura par Nicolas Pineau.
Il y a 70 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitulait. Des milliers d'Africains, certains surnommés des tirailleurs sénégalais, ont participé à cette défaite. Certains anciens combattants africains ont pu revenir sur le continent, mais ont été abattu par la puissance coloniale pour laquelle il se battait contre les nazis. Le 1er décembre 1944, au camp de Tiaroy, au Sénégal, pour un rappel de ce qui s'est passé, Idriss Fall a joint le professeur Djibril Ndiaye à Paris.
Au camp de Tiaroy, le 1er décembre 1944, il y a le premier contingent de tirailleurs sénégalais qui étaient en réalité des anciens prisonniers de guerre, se sont retrouvés au camp de Tiaroy et ont depuis quelques jours manifesté auprès de la hiérarchie que pour être démobilisés, repartir dans leur village, ils avaient besoin qu'on leur paye l'intégralité de leur pécule de guerre. La hiérarchie militaire leur disait de rentrer tranquillement dans leur village et que plus tard, on verrait pour le paiement de leur pécule de guerre. Ils ont refusé et sont restés au camp de Tiaroy. Raison pour laquelle, en tout cas, décision de la hiérarchie militaire de Dakar de tuer, de tirer sur ces tirailleurs qui étaient sans armes.
Ils étaient combien ?
Et on ne sait même pas le nombre de morts aujourd'hui. Au jour où on parle, l'armée, profitant du secret militaire, a fait le blackout sur l'ensemble des données élémentaires sur cette tragédie.
Le cimetière de Tiaroy, c'est une fosse commune ?
Le cimetière de Tiaroy, ce qui est représenté comme étant le cimetière de Tiaroy aujourd'hui, ne contient pas un seul mort. Personne aujourd'hui, mis à part l'armée, personne n'est en mesure de dire où les gens qui ont été tués à Tiaroy ont été enterrés. Personne. On est dans l'opacité la plus totale. En tout cas, les chiffres qui sont maintenant avérés après le travail d'un chercheur de l'Université de Lorient qui s'appelle Armel Mabon, on sait combien de tirailleurs exactement sont partis de Lorient.
Ils étaient combien ?
Ils étaient 1600. Par la suite, l'armée a trafiqué le nombre en disant qu'il y avait 400 qui avaient débarqué à Casablanca pour dire qu'il n'y a eu que 1200 tirailleurs sénégalais qui ont débarqué à Dakar.
Mais comment se fait-il que le Sénégal n'ait jamais essayé de rouvrir ce dossier ?
Bon, déjà, le Sénégal, avant l'indépendance, a manifesté à travers un certain nombre d'hommes politiques sur cette question-là, notamment Lamine Gueye qui a défendu les tirailleurs qui étaient jugés à Dakar, ceux qui ont été condamnés à de lourdes peines, parce qu'ils étaient 34 à avoir été condamnés, malgré tout, pour fait de mutinerie et désobéissance, dont celui qui avait été le plus sévèrement condamné à 10 ans il s'appelle M. Habibou, Antoine Habibou.
Le professeur Djibril Ndiaye à Paris.
Huit communes vont changer de pays après un nouveau tracé de frontière entre le Niger et le Burkina Faso suite à la décision de Niamey et Ouagadougou d'accepter l'arrêt pris le 16 avril 2013 par la Cour internationale de justice de La Haye, mettant fin à des années de litiges. Le Niger et le Burkina Faso partagent environ 1 000 000 de kilomètres de frontière, dont un tiers a déjà été borné. Selon la secrétaire permanente de la Commission nationale des frontières du Burkina Faso, Kwara Apiou Kabore, le Burkina Faso gagnera ainsi 14 villages contre 4 seulement pour le Niger à la fin du bornage prévu d'ici 2016. On l'écoute.
Avec la nouvelle frontière, le Burkina perd 277 km² dans la région du Sahel et il obtient 786 km² du côté de l'Est.
Est-ce que ça a été compliqué de mettre en place cette nouvelle frontière ?
Non, c'était une concertation. Nous avons saisi la Cour internationale de justice qui nous a départagés à travers son arrêt du 16 avril 2013.
Est-ce que pour vous, c'est une décision importante ?
Elle est très importante parce que ça nous fait un contentieux qui opposait le Burkina et le Niger depuis longtemps.
Ça avait occasionné des raideurs diplomatiques ?
Un contentieux juridique, c'est pour déterminer la ligne frontière. Nous ne sommes pas entendus sur l'interprétation de certains textes pour le passage de la frontière. Donc, après plusieurs concertations, nous avons jugé important de saisir la Cour pour nous départager.
Qu'est-ce qu'il va se passer au terme de ce nouveau tracé ? Vous allez à nouveau être obligé de recenser les populations ?
Il y a des villages que nous perdons qui vont passer de l'autre côté de la frontière, du côté du Niger. Nous allons les recenser au cours du bornage. Maintenant, voir ce que nous pouvons faire pour MC, elle veut le rester sur le territoire nigérien, qui est lui-même chargé de nationalité. Les dispositions seront prises pour ça.
Quelles conséquences cela va-t-il avoir pour les populations le long de cette nouvelle frontière?
Elles vont s'adapter à la nouvelle situation, puisque nous avons fait une sensibilisation juste après l'arrêt de la Cour internationale de justice. Nous sommes allés dans la région du Sahel et nous sommes allés dans la région de l'Est. Nous avons sensibilisé et sont déjà préparés à ça. Elles vont s'adapter à la nouvelle situation.
On écoutait Kwara Appiou-Kabore, secrétaire permanente de la Commission nationale des frontières du Burkina Faso.
Depuis le 29 avril, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certains produits éclaircissants sont interdites en Côte d'Ivoire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2011, environ 25% des femmes au Mali utilisent régulièrement des produits éclaircissants. Quant au Togo, elles sont 59% et la proportion atteint 77% au Nigeria. Au Sénégal, la société civile multiplie les campagnes de lutte contre le blanchiment de la peau, mais elle n'a pas encore été suivie par une action gouvernementale. La décision du gouvernement ivoirien est donc la bienvenue, selon Madame Mireille Gnaoré-Botti, présidente de l'ONG Mireille Onti, spécialisée dans le conseil et l'écoute des femmes en Côte d'Ivoire.
C'est vrai, le constat est amer. Bon nombre de femmes ivoiriennes tendent à devenir claires. D'aucuns diraient que la peau noire est d'une rareté. Donc une telle décision, si elle a pour objectif de faire éviter à toutes ces dames qui souhaiteraient justement avoir une peau plus claire tous les effets induits de ces produits sur leur santé, je pense que c'est une décision salutaire.
Est-ce que prendre une telle décision, n'est-ce pas enfreindre les libertés individuelles?
Enfreindre les libertés individuelles, non. S'il y a atteinte à la santé de toutes ces femmes-là et aussi prémunir la jeunesse qui voit ses grandes sœurs ou ses tantes ou ses mamans comme exemple finalement. Donc non, pas nécessairement, mais pour un État comme le nôtre, la dépigmentation, c'est vrai, c'est un sujet de société, mais ce n'est pas un sujet par contre d'actualité.
Est-ce que l'implémentation d'une telle décision ne posera pas problème parce qu'une femme, elle enduit sa pommade dans sa chambre? Comment le ministère compte-t-il appliquer cette décision dans la réalité?
Ce à quoi on assiste très souvent, c'est qu'il y a des décisions comme ça, je dirais, courageuses, qui sont prises, mais qui ne sont pas suivies des faits sur le terrain. Et vous faites bien de parler de cet aspect de, justement, la dame qui achète son produit et qui le met chez elle à la maison. Alors, comment est-ce que on voudrait faire appliquer une telle mesure si on n'approche pas tous ces laboratoires, si on n'approche pas tous ces grossistes, toutes ces surfaces qui vendent ou revendent ces produits pour leur faire comprendre qu'il y a des produits qui sont prohibés et qui sont même plus mis en circulation dans les pays industrialisés et que l'Afrique ou la Côte d'Ivoire ne devrait pas constituer une poubelle pour tous ces vendeurs qui ne savent finalement plus où écouler leurs marchandises. Donc l'attention est à attirer auprès de la population, certes, mais il y a tout ce circuit de revendeurs, de grossistes, d'acheteurs et même de producteurs qui doit être interpellé. Parce que c'est un peu comme la décision aussi de ne pas téléphoner au volant ou la décision de ne pas vendre ou de ne pas acheter des sachets plastiques. Alors c'est vrai qu'on prend des décisions comme ça, mais aussi sur le terrain, il faut asseoir toute une stratégie.
Mireille Gnaoré-Botti, présidente de l'ONG Mireille Onti, jointe à Abidjan par Jean-Roger Billon.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
-26 degrés centigrades ici à Washington. C'est la fin de cette édition. La production a été assurée par Georges Léonard Sagnot avec l'assistance technique de Suleiman à la console. À la présentation, Morgane Guiriec, l'unique, et chez Robin Dorsil. Morgane.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.